notre vie chrétienne quantique, c'est la différence que nous avons avec les musulmans, les hindouistes, et même les luthériens, et même pour ainsi dire les orthodoxes, c'est que nous vivons, nous voulons vivre, nous vivons à partir d'actes de vie théologale. Notre vie chrétienne est théologale. Alors qu'est-ce que c'est cette vie théologale? Ça, c'est Jésus qui nous explique ça, les apôtres. Et donc, tout l'enseignement sorti de la bouche du corps mystique de Jésus, à travers notamment les docteurs mystiques, les docteurs et les saints. Et puis, bien sûr, confirmé par le magistère, merveilleux de l'Église. Alors, habituellement, on dit, ouais, il faut faire des actes de foi, il faut faire des actes d'espérance, il faut faire des actes d'amour. Donc, on avait vu déjà, pendant 2 ans, et c'était déjà lundi, comment est-ce qu'on vit l'esprit de virginité. Tout chrétien doit vivre l'esprit de virginité. Ça veut dire doit garder sa virginité physique, mais ça veut dire que spirituellement, il doit apprendre à laisser pénétrer la virginité parfaite de Christ dans son esprit. Comment est-ce qu'on fait ça? Et c'est pour que notre foi, du reste, devienne de plus en plus virginale, c'est-à-dire de plus en plus immaculée. Parce qu'une foi qui se trompe, ce n'est pas une foi immaculée. Et une foi qui est contemplative, qui est virginale, elle est immaculée, en présence donc de l'agneau immaculé, de Dieu. Et faire que notre foi, comment faire pour que notre foi s'intensifie, comment faire pour que notre foi devienne théologale, comment faire pour que notre foi, qui est une foi religieuse, on croit à Jésus, on croit qu'il y a 3 personnes, un seul Dieu, on croit à toutes sortes de vérités de ce genre, mais comment faire pour que notre foi devienne surnaturelle? Comment faire pour permettre à cette foi de devenir chrétienne? Comment? Eh bien, il faut vivre de l'esprit de virginité. En quoi consiste l'esprit de virginité? Donc, vous avez pour ça des cassettes pour répondre aux deux premières années où on a fait ici. Cette année, nous avions donc fait essayer de rentrer dans l'espérance. Comment faire pour que cette vertu théologale de l'espérance, que tout le monde sait comment on fait un acte d'espérance, bon, et bien, comment faire pour que ces actes d'espérance que nous faisons, par exemple dans le rythme, le soir quand on s'endort, peu importe, comment faire pour que ces actes d'espérance commencent à devenir chrétiens? Parce qu'il est évident qu'un musulman, il fait des actes d'espérance. Mais ce n'est pas surnaturel. C'est religieux. C'est religieux. Ce n'est pas surnaturel, ce n'est pas théologal, ce n'est pas chrétien, ce n'est pas le Christ. On peut approcher du Christ, mais ce n'est pas encore le Christ. Ce n'est pas encore Dieu, si vous voulez, qui agit en lui. C'est lui qui essaie d'aimer Dieu, de se rapprocher de Dieu, ce qui est chrétien. Mais nous vivons ce Christ qui vit en nous, et si nous ne vivons pas de manière théologale de l'espérance, ça veut dire que nous rabattons au niveau de l'islam. C'est précisément ce dont il faut prendre conscience, à partir de quel moment notre espérance devient chrétienne. Notre espérance devient chrétienne à partir du moment où nous rentrons dans l'esprit de pauvreté. Qu'est-ce que c'est que l'esprit de pauvreté? Donc, vous avez toute cette année, nous avons essayé de regarder ça en détail. En détail. C'est très important, évidemment, de voir ça. Et si Dieu nous prête vie, on regardera l'esprit d'obéissance, et vous reconnaissez immédiatement les 3 conseils évangéliques. C'est pour ça d'ailleurs que la petite carmélite fait le vœu de pauvreté, sacrifice, obéissance. Elle le fait joyeusement, elle le fait merveilleusement, intégralement, et elle est très pressée de faire. Et plus vite elle le fait, plus elle est heureuse de pouvoir sauver, de cette manière-là, le monde entier. Et elle ne perd pas une minute. Donc, oui. Alors, c'est urgentissime. Et donc, il y a tout l'esprit de pauvreté qui est justement à avoir ça. Bon, alors, vous voyez bien que l'esprit d'obéissance, on fait le vœu de chasteté pour rester obéissant. Vous connaissez les 3 conseils évangéliques. C'est la manière dont les apôtres, c'est bien les apôtres, notamment Saint Matthieu, vous ne pouvez jamais l'oublier, qui a été le premier à fonder à lancer, si vous voulez, des communautés, des groupes de petites dames consacrées comme ça à Dieu. d'après la tradition, c'est vrai, Saint Mathieu avait lancé ses premiers types de monastères qui ont très vite été balayés par la persécution. Il a fallu réattendre donc Saint Paul, le premier moine, c'est-à-dire Saint Paul, puis Saint Macaire, Saint Antoine, à la suite de Saint Paul, pour Saint Paul était le premier moine, le premier ermite. Saint Paul l'ermite, ça a donné les Pauliniens, vous savez, ceux qui sont en train de garder l'icône de Fiesta Corda. C'est eux, les Pauliniens. Eh bien, c'est pas Saint Paul, la peau des gentils, mais c'est Saint Paul, le premier contemplatif, le premier ermite, qui n'a vu qu'une seule personne à la fin de sa vie, c'est le fameux Saint Antoine. Bon, alors, qui lui a donné son manteau, il a donné son manteau à Saint Antoine, comme Élie a donné son manteau à Élisée. Et puis il est mort. Et c'est Saint Antoine, vous savez, qui est le père des moines. C'est très joli. Et à la suite de quoi, Saint Antoine, effectivement, a accepté que s'approche de lui d'autres ermites. C'était dans les Thébaïdes, c'était des dizaines et des dizaines de milliers de gens, de jeunes qui se consacraient tout seuls à Dieu, mais ils avaient besoin de quelqu'un qui leur donne cette grâce apostolique. Voilà, et c'est comme ça qu'est née, justement, a été reprise, pour ainsi dire, cette tradition apostolique du résumé de ce que Jésus leur disait oralement, du résumé de la tradition orale sorti de la bouche du Christ dans les trois conseils. Voilà, le résumé de l'Écriture, comment vivre de l'esprit de pauvreté, comment vivre de l'esprit de virginité, comment vivre de l'esprit d'obéissance. Voilà les trois faisceaux qui expliquent toutes les Écritures. Pour nous. Ça, c'est ce qu'on appelle la tradition orale sortie de la bouche de Jésus. Et nous essayons de regarder cela. Elle fait partie, on le sent bien, de ce qui est le plus élémentaire dans la catéchèse chrétienne. Alors, vous vous êtes rendu compte, peut-être, que vous n'en aviez jamais entendu parler, même le premier mot. C'est étonnant, ça. C'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est tout à fait ignorant. Pourtant, l'Église garde quand même des traces de ça. Puisqu'on fait votre pauvreté, ça fait obéissance. Voilà. Alors, donc, pour l'espérance, c'est l'esprit de pauvre. Donc, nous avions regardé, et pour l'esprit de pauvreté, qu'est-ce qui peut-être n'a jamais eu ce texte, ce qui ne l'a jamais eu. Qu'on puisse achever, on va achever peut-être ce matin, et comme ça, ce sera. Et puis, si on n'a pas fini demain matin, on achèvera ça. D'accord. J'espère que ce matin on arrivera à l'achever. Enfin, on n'a jamais fini. Bien sûr, ma part. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le plan théologique, ce qui structure intérieurement notre vie dans l'espérance, c'est l'action directe de l'Esprit Saint. Mais quelle est l'action de l'Esprit Saint qui déploie en nous des espaces intérieurs qui nous permettent de rentrer dans l'espérance? Ce n'est pas n'importe quel des sept dons du Saint-Esprit qui élargit en nous le cœur dans un espace suffisamment grand pour qu'il puisse se déployer et nous faire nous déployer nous-mêmes dans cet exercice théologal d'espérance. Puisque dans l'esprit de virginité, c'est le don d'intelligence, c'est le don de sagesse, et puis c'est le don de piété qui vont structurer notre foi, notre vie contemplative, l'esprit de virginité. Et dans l'esprit de virginité, c'est le don de crainte, voyez, et puis le don de science, qui structure, ou pas. Alors, il faut donc apprendre, puisque la vie chrétienne consiste à vivre actuellement, concrètement, des sept dons du Saint-Esprit, vous vous sentez bien ici, dans l'espérance, c'est d'apprendre, de savoir comment on ouvre les portes à cette liberté, on laisse l'Esprit Saint libre de s'épancher délicieusement dans nous, glorieusement de s'écouler dans notre cœur, dans notre affectivité plus exactement, puisque l'espérance c'est par rapport à l'affectivité, c'est-à-dire soif d'amour. Comment on va lui donner cette liberté de se déployer en nous pour qu'il puisse y avoir l'espérance. C'est l'esprit de science et l'esprit de grâce. Ce n'est pas, vous voyez, nous ne sommes pas dans l'agnosticisme, à savoir, oh, moi j'y crois, et puis c'est Jésus, c'est l'Esprit Saint, et puis il navigue la galère. Ce qui compte, c'est que j'en vive. Bah, c'est compliqué votre truc. D'abord, premièrement, c'est pas compliqué. Et deuxièmement, vous voyez, c'est pas le. C'est contemplatif. Et donc, notre vie est d'abord contemplative. Parce que c'est l'homme qui espère. Mais si vous n'êtes pas contemplatif, il n'y a pas d'homme. Il y a l'homme en puissance, mais il n'est pas en acte. Donc, il faut être contemplatif. Et la contemplation exige la lucidité. Et donc, si vous dites, moi, je ne veux pas savoir, ça veut dire que vous ne savez pas ce que c'est que l'espérance. Et que vous n'avez jamais fait de votre vie un seul acte d'espérance. Qui est étonnant. Donc, il faut rentrer dedans. Ça, l'Église a toujours dit que c'était très nécessaire de se former à la vie chrétienne. C'est de formation. On ne se forme pas tout seul. Dieu nous forme à travers une révélation. Et cette révélation, il faut la recevoir. Cette révélation, Dieu se révèle. Ce n'est pas nous-mêmes qui, en fonction de notre instinct, machin, cette main-là, nous apprenons. Nous sommes à l'école de Jésus, à l'école du Saint-Esprit. Et les deux se conjoignent, vous voyez, dans cette espèce d'enseignement de l'esprit de pauvreté, de l'esprit de dignité, l'esprit d'obéissance. Alors, tout ça, vous voyez, pour comprendre l'esprit de pauvreté, c'est premièrement comment vivre de l'esprit de crainte et de l'esprit de science. Donc nous avons regardé ça toute l'année, hein, c'est pas compliqué. Donc vous avez des super cassettes extraordinaires à enregistrer en digital, n'est-ce pas, qualité laser et tout ça. Donc ne dites pas, c'est trop fatigant, c'est mal enregistré. C'est les meilleurs enregistrements que vous puissiez faire au monde. Géré par des âmes slaves, donc il y a quand même une substructure de réceptivité de l'Esprit Saint dans cet aspect de pauvreté. L'Esprit Saint, c'est cet amour éternel en Dieu qui fait que Dieu ne cesse de s'effacer devant Dieu. Rendu l'amour dans l'esprit de pauvreté. Dieu accueille Dieu. Dieu s'efface devant Dieu. Comment faire dans notre structure un peu boueuse, un peu marécageuse? On voudrait courir à 100 km à l'heure, mais on est pris dans la boue, tu sais. Alors, on voudrait courir au Carmel, par exemple. Et puis, il n'y a rien à faire. On fait du 3 mm à l'heure. C'est extraordinaire. Et plus on essaie de courir, plus on s'enfonce. Alors il faut quelqu'un qui se prenne par les cheveux, comme un Bacu, qui. Allez, hop, au Carmel. C'est extraordinaire, une pauvreté. Alors, donc, quelle est la substructure en nous? La substructure. La substructure, c'est faire que notre affectivité, justement, puisse rentrer humainement dans cette capacité, cette disponibilité affective. Vous voyez? De manière qu'on commence enfin à rentrer dans un amour humain, notre affectivité devienne suffisamment humaine pour qu'elle puisse s'ouvrir à ce qu'on appelle la dimension extatique, vous voyez, la dimension surabondante, la dimension d'effacement de l'amour en nous. Quand l'amour en nous fait une espèce de chaleur extraordinaire qui fait que il y a les portes qui s'ouvrent et voilà. Et qui commencent à rentrer dans le point de vue spirituel d'un amour humain. Alors, voyez, il y a une substructure au niveau humain. Une condition sine qua non, si vous préférez. L'esprit de pauvreté, c'est pas ça. L'esprit de pauvreté exige cela au niveau humain. Exactement comme pour la foi, c'est une lumière surnaturelle qui pénètre dans votre intelligence à la condition que votre intelligence soit saine au point de vue humain, c'est-à-dire qu'elle commence au moins à devenir contemplative. Et au moins un commencement de vie contemplative. Sinon, la lumière surnaturelle de la foi ne peut pas pénétrer. C'est comme l'eau sur le cul d'un canard. Alors c'est très bien, du coup vous avez une foi périphérique qui est uniquement religieuse. Alors c'est la religion. Moi, catholique, c'est ma religion. C'est très bien, il le faut. Mais, ce n'est pas ça que Jésus veut. Jésus veut rentrer dans l'intimité de l'âme pour surnaturaliser nos activités personnelles. Et nous faire pénétrer dans la très sainte Trinité personnellement, actuellement, expérimentalement. C'est ça la future étape. Et donc, une condition sine qua non. C'est pas ça l'esprit de pauvreté. Et donc, ça va structurer la spiritualité. D'accord ? Nous avons vu cela. Nous l'avons vu. Bon, mais pour résumer, si vous voulez en tout cas, un espèce de résumé, un espèce de principe, l'esprit de pauvreté, c'est quelqu'un qui est capable de renoncer à ses droits. Quelqu'un qui est incapable de renoncer à ses droits les plus légitimes. Hein. Ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire du coup, ah bah tu renonces à tous tes droits dans toutes les circonstances, etc. Non, non, j'ai dit qui est capable. Parce que c'est humain, les droits. On a un droit quand même. Si quelqu'un vous attaque et il vous calomnie et c'est faux, vous avez le droit de vous défendre. Est-ce que vous êtes capable de ne pas vous défendre? Vous êtes conspué par des calomniateurs. Comme dit Kipling, si tu peux entendre sur toi mentir leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un mot, tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir, perdre en un seul coup le gain de son parti, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et de son temps haïr sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Ah, là, vous voyez, c'est pas l'esprit de pauvreté. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs, le triomphe c'est le mensonge, et la défaite aussi, ces deux menteurs, on a même front, si tu sais conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront. Si tu sais être brave, jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, tout ça. Vous voyez, mais c'est beau ce truc de Kipling que vous connaissez tous, hein. Mais ce n'est pas l'esprit de pauvreté encore. Ce n'est pas l'esprit de pauvreté. Mais parce que, vous voyez, si tu peux laisser les sots dire des choses sur toi qui sont des immondices, et laisser ce mensonge t'atteindre sans mentir toi-même à ton tour, ça, j'allais dire, ça, c'est humain, si je peux dire, mais ce n'est pas encore l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté, c'est plus que ça. C'est que je me laisse blesser par ça, et du coup, ça nourrit mon affectivité, mon effacement, ma capacité de recevoir l'amour. Et c'est vrai que être capable de renoncer à ses droits. Hein, vous voyez, c'est quelque chose que pour ceux qui vivent d'une religion formelle,
Hein, on a des exemples aujourd'hui. Des gens qui vivent une religion qui est très formelle. Hein, c'est la caractéristique, notamment bon, ben, de gens très, très assez intégristes, si vous voulez. La religion est très formelle. Hein. C'est très formelle. Ils ne nous décrocheront pas de leur droit. Mais à l'opposé, vous avez aussi, dans l'autre sens, parce qu'attention, ce n'est pas les seuls. C'est pas parce que c'est traditionnel que c'est formel. Il y a un formalisme dans toutes les directions. Il y a un formalisme au niveau du centre, si vous voulez. Il y a un formalisme. Oui, parce qu'il y a, il faut que ce soit absolument. Il faut être tolérant. Et c'est formalisme, c'est ça l'absolu. Il renoncerait à. Et puis il y a un formalisme au contraire pour que ce soit indépendable. Il faut que ce soit indépendable. Non, il ne faut pas de formalisme. Aucun a priori. Nous n'avons aucun a priori. Est-ce que nous sommes capables, donc, de renoncer à nos droits? Mais par exemple, de refuser de se défendre. Par exemple, dans un carmel, une carmélite, un moine, bon, il se fait attaquer par la prieure, ou qui a vraiment l'impression que c'est elle qui a fait tomber la pile d'assiettes de trucs, et elle la met à genoux, c'est vous qui avez fait ça, c'est lamentable. Là, et bien, la petite carmélite, si vraiment le moine, ben, si vraiment il désire, attention, c'est pas obligatoire bien sûr, ça fait pas partie de la règle, mais si vraiment il désire rentrer plus avant de l'esprit de pauvreté, il se précipite sur cette occasion, parce qu'il sait que s'il le fait et qu'il ne défend pas, il renonce au droit de se défendre, par exemple, et bien il sait que s'il ne défend pas, il ira des centaines de fois plus loin dans l'espérance. Il en a l'expérience de ça. Il vivra. Et donc, il ne veut pas du tout utiliser son droit humain dans la règle de Saint-Benoît, dans la règle même de la Grande Thérèse. Eh bien, justement, on a le droit de se défendre. C'est fait partie de la vie communautaire. Il y a le droit de se défendre. Si on a le droit, je veux dire, on a voix au chapitre, on appelle ça. Bon. Mais si on a un tout petit peu, j'allais dire, de vie théologale, eh bien, aussitôt, qu'est-ce qui se passe? Dès que des occasions comme ça se présentent, vite on se précipite pour embrasser ça, étreindre ça en disant enfin une occasion de rentrer dans l'esprit de pauvreté, renoncer à son droit. Ça, c'est la substructure humaine, ça. Ouais, la petite condition sine qua non. C'est-à-dire, si vous n'avez pas ça, impossible de rentrer dans l'esprit de pauvreté. C'est déjà une sacrée pauvreté. Hein. Mais ce n'est pas divin. Ce n'est pas encore divin. Vous voyez, j'espère que vous comprenez. Enfin, j'ai le droit de résister un peu. J'ai le droit. Bon, alors. Vous voyez ça? Alors à ce moment-là, on ne supplie l'Esprit Saint d'être là. On supplie l'Esprit Saint d'être là. Et effectivement, on demande à Jésus de nous donner cet esprit de. Enfin, vous voyez, parce qu'on ne voudrait pas, en reprenant son droit, on ne voudrait pas, comment dire, froisser un tant soit peu, par une puce nette dans le petit œil de la colombe, la présence de l'Esprit. Et de l'esprit de science de Dieu. Parce que si on s'accroche à ses droits, tac, ça va juste être dans l'œil de la colombe, et on afflige le Saint-Esprit. Et du coup, il s'en va. Bienheureux les affligés seront consolés. Dans l'esprit de pauvreté, c'est nous qui rentrons dans une affliction qui est divine. Mais nous ne posons pas cette affliction sur l'œil de la colombe, c'est-à-dire sur l'Esprit Saint. Nous ne voulons pas affliger l'Esprit Saint. C'est nous qui vivons la béatitude de l'esprit de pauvreté et de l'esprit de science. L'esprit de science, j'aimerais affliger, c'est vous consoler. Nous ne voulons pas, au contraire, nous voulons que cet effacement dans l'Esprit Saint soit de plus en plus grand. Nous ne voulons pas rétrécir l'amour de Dieu en nous. Et c'est pour ça, voyez, l'esprit de une peur terrible de te brouiller. C'est si délicat l'amour de Et ça, c'est presque instinctif au bout d'un certain temps de vie théologale, de vie d'oraison, voyez. Oui, par exemple, dans l'esprit de science, on vit du sacrement de baptême. Et dans l'esprit de crainte de Dieu, on vit du sacrement de mariage. C'est deux sacrements qui structurent mystiquement l'esprit de pauvreté. C'est dans le mariage que vraiment on trouve la conjonction de l'effacement de la très sainte Trinité en elle-même et de l'effacement de deux personnes humaines devant une réalité nouvelle qui est l'unité spontanée de ces deux. Cette rencontre de ce quadruple effacement dans une seule réalité, ça s'appelle l'esprit de pauvreté. C'est pour ça que le sacrement de mariage, mystiquement vécu, est source de l'esprit de pauvreté. Pour ceux qui ont reçu l'esprit de crainte de Dieu, ils verront que le sacrement qui libère, qui ouvre les robinets, j'allais dire, c'est une très forte pression pour que l'Esprit Saint se répande en nous, dans notre cœur, et bien, c'est le sacrement de mariage. Vous voyez, pour l'esprit de science, vous avez vu aussi ceux qui l'ont reçu, que c'est le sacrement de baptême. Le sacrement de baptême se vit mystiquement comment? En vivant chaque jour de nos prières. C'est comme ça qu'on vit mystiquement le sacrement de baptême. Quelqu'un qui ne fait pas oraison, qui n'a jamais fait oraison, et qui n'a donc jamais eu l'occasion de donner à sa liberté surnaturelle de s'exprimer à travers le Jésus ressuscité pour rentrer dans la très sainte Trinité, dans ces moments de silence et de vie surnaturelle, séparée, silencieuse, abandonnée, on s'abandonne à cet abandon divin. Et donc, au lieu de rentrer dans un système d'efficacité religieuse, je vous dis d'utiliser mon temps de prière par la méditation, où j'essaie de comprendre des textes, où j'essaie de rentrer dans la signification. Non, laisse tomber ta méditation, laisse tomber tout ça. C'est pas l'efficacité, c'est la fécondité du baptême. Le baptême est une source de fécondité. Et tu en vis en faisant oraison. Tu en vis. Et dans l'oraison, c'est l'abandon. C'est l'unanimité du corps mystique et tu fais des actes de foi, des actes de vie théologale, des actes d'espérance. Tu acceptes qu'il y ait ces moments où. Alors, les actes de foi, d'espérance et de charité sont des actes de toute l'intériorité surnaturalisée. Ton mental ne fonctionne pas. Le mental ne fonctionne pas dans la vie théologale. En ce moment, nous sommes en train de faire une méditation où le mental fonctionne. N'est-ce pas? Dans l'oraison, non. Oui. C'est très important de comprendre ça. On a même presque honte de le dire, tellement c'est élémentaire. Enfin donc, on va continuer là-dessus. Et on avait vu, voyez, donc, les deux sacrements qui et on a vu les idéologies modernes qui s'opposent directement à l'esprit de pauvreté. On avait vu les caricatures de l'esprit de pauvreté. Donc c'est tout ce que nous rencontrons hélas de manière universelle chez les cathos moyens, chez les cathos supérieurs et chez les cathos inférieurs. Toutes les caricatures de l'esprit de pauvreté. Et notamment, et premièrement, chez nous. Parce que si vous dites, ah, la caricature, d'abord ici, s'il vous plaît, merci. Et ensuite, vous avez... Alors, je prends par exemple, bon, je vous rappelle par exemple, la fausse humilité. Le rejet des caricatures, messianisme temporel, fausse humilité, mystique passive, quantitisme attentif, murmure, gloire humaine, gloire réelle. Voilà les sept caricatures. Bon, prenons la fausse humilité. La fausse humilité, c'est lorsque le soir, vous êtes là, et puis vous êtes découragé. Vous êtes découragé. Je suis découragé.
T'arrives jamais? T'arrives? Attends. Si t'es découragé, clignote en rouge, ça veut dire il y a une matière grave quelque part. Je dis bien une matière grave, ce qu'on appelait quand on était gosse péché mortel. Il y a une matière grave contre l'espérance quelque part. Si t'es découragé le soir, c'est qu'effectivement, il y a eu un dérapage grave. Ça prouve en effet que tu as dans ta journée, c'est bien dans ta journée, tu as fait quelque chose par contrainte. Tu t'es forcé à le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais se forcer. Je n'ai pas dit ça. Sinon, ce serait la catastrophe. Donc, il faut bien comprendre. Mais si tu es découragé, c'est la preuve que tu as fait. Tu t'es habitué à ce que tu fais de bien, tu le fais par contrainte. Tu t'y es habitué. Donc tu t'es mis sur un registre de stoïcisme, qui est une faute grave contre l'espérance. Parce que l'espérance, ça n'est pas du stoïcisme. On n'est pas des puritains. Et c'est très beau, Pascal, c'est très beau. Les pensées de Pascal, c'est excellent, c'est très beau. Mais ce n'est pas la vie chrétienne. Ça, c'est sûr. Un genre de vie. Donc, il faut faire très attention à ça. Si j'ai fait par contrainte, si je l'ai fait par contrainte, c'est donc que ce n'est pas fait dans l'esprit de pauvreté. Donc, l'esprit de pauvreté, l'esprit de crainte, entendons-nous. Donc, dans quelque chose qui relève de l'amour. Et donc, je sais, par exemple, la petite fille, et ben voilà, par contrainte, elle va se forcer. Je vais me forcer, maman dit de faire la vaisselle, je me force à la faire. Mais, je suis contraint. Ou l'épouse, ou la famille, c'est ça. Je vais faire ça parce que sinon, ça va être. Donc, je vais me forcer à. Sinon, ça va être la guerre, ça. Mais même si ça ne va pas être la guerre, je me force. Il faut que je le fasse. Et du coup, je le fais. Hein, c'est beau remarquer d'une certaine manière, hein, mais à force de faire ça, on sort de l'espérance. On dit oui, il faut quand même que je sois humble, que je sois la petite servante, donc il faut que je fasse la vaisselle. Et du coup, je le fais. Mais à force de faire ça, je aboutis au découragement. Hein, c'est une fausse voie. Donc, si vous avez le découragement, sachez que ça veut dire que vous avez fait les choses par contrainte. Donc, vous avez fait des actes de fausse humilité. La fausse humilité s'origine dans l'orgueil. Tandis que l'esprit de pauvreté s'origine dans l'amour. Ça prouve donc que vous n'avez pas fait cela dans l'amour. Comment est-ce qu'il faut faire pour faire dans l'amour? Eh bien, c'est justement, dites-vous bien, repérer votre histoire. Ah oui, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse pour que ce ne soit pas par contrainte? Et repérer l'instant où vous auriez pu faire quelque chose pour que ce ne soit pas par contrainte. Évidemment, c'est avant de le faire. Et bien, avant de le faire, pour réaliser qu'il y a ça, alors pour éviter que ce soit trop dur, ouais, moi je vais le faire, ce con-là, il ne peut pas, c'est un abruti. Vous voyez. Et puis vous le jugez en même temps. Mais enfin, tout de même, il ne faut pas quand même que je le juge. Alors, il faut que je me force. Et puis j'oublie que je le juge en forçant. Ça, c'est le contraire. Ça n'est pas l'espérance. Vous n'ouvrez pas la porte à l'espérance en forçant. C'est terrible, ça. D'accord. Alors, c'est très intéressant, ça, parce que c'est très intéressant. Et tous les soirs, je vous réfléchirai à ça. Cet examen de conscience d'histoire, ça doit être ça. Ah oui, ça c'est sûr. Alors donc vous repérez, vous dites, on est à table, etc. Il y avait la télé et tout, il faut quand même que ce soit fait, je vais le faire. Ah, et bien qu'est-ce que j'aurais dû faire? Puisque je suis découragé, ça prouve que je n'ai pas fait un acte d'amour. Eh bien, je dois m'arranger pour comprendre que j'aurais dû faire un acte d'amour. Et pour faire un acte d'amour vrai, un acte d'amour certainement vrai, un acte d'amour réellement vrai, eh bien, c'est ce que je veux dire, tenir, je crois, et c'est ce que c'est, il suffit, je crois, moi, que la chose, le moyen le plus simple, le plus radical, qui fait exploser et la contrainte d'amour et la possibilité et l'orgueil, il n'y en a qu'un, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de faire un acte d'adoration. Je fais un acte d'adoration. J'aurais dû finalement faire un acte d'adoration. Dire, ah, il y a ça à faire, allez. Eh bien, oui, ah ben, après tout, par ce moment, vous êtes en train de me créer, mais par amour, je lui donne toute ma vie. Alors là, à ce moment-là, je vais le faire. Et c'est pas par contrainte que je le fais. Parce que je le fais dans un élan. Vous voyez, la contrainte, c'est de monter une pente. À force, vous avez mal au bras. Tandis que quand vous faites un acte d'adoration, c'est toboggan, ça glisse tout seul. C'est originé dans l'amour. Et repérez simplement, si vous êtes découragé, c'est que vous avez mal ciblé les moments où vous deviez faire vos actes d'adoration. J'existe. En ce moment, je suis suspendu à la créateur que je suis. Mais ma vie ne dépend pas de lui, mais par amour, puisqu'il fait que j'existe, puisqu'il fait que je suis. C'est extraordinaire de voir qu'en ce moment, tu es en train de me créer. Je suis suspendu. Parce que dès que j'ai un truc à faire, je deviens lourd. Je suis suspendu. Là, je suis léger. Je suis suspendu à l'acte créateur. En ce moment, il fait que j'existe. Après, du coup, cette lourdeur qui est en moi. Allez, je la prends à pleine main. Que par moment, je donne toute mon âme, toute ma vie, toute ma personne, nous, mon corps, mon âme et mon esprit. Par amour. Allez, je vais faire la vaisselle, les mecs, et en enfant. Et on y va. Pas en dansant extérieurement, vous y distinguez celui-là, mais intérieurement aujourd'hui. Voilà. Donc, les garde-fous. Donc, les garde-fous quotidiens. Donc, je vous ai dit, donc ça c'est pour lutter contre les caricatures et les idéologies modernes. Vous avez donc 14 points de fixation que vous réécouterez. Mais maintenant, le point de vue positif, c'est si vous voulez effectivement ouvrir ces espaces à la vertu intérieure de l'espérance, c'est-à-dire à cette énergie, je crois qu'on peut dire ça, cette énergie, j'hésite pas de le dire, l'énergie energeia, n'est-ce pas, cette énergie qui fait que la grâce sanctifiante qui est en nous va augmenter en raison de l'intervention d'une grâce incréé en nous. Ce lien entre la grâce incréée et la grâce sanctifiante en nous, pour que la grâce sanctifiante augmente, c'est une énergie de l'Esprit Saint, comme dit Saint Grégoire Palama. Voyez. Et bien, pour qu'il y ait cette énergie dans notre affectivité, qui fait que notre espérance est actuée, dans un acte d'espérance, il faut qu'il y ait cette substructure dont je vous ai parlé et qui s'ouvre par ces 16 actes d'adoration par jour. À 7 moments différents. Parce que l'acte d'adoration fait que, enfin, au lieu d'être dans ma lourdeur, je m'efface devant l'acte créateur de Dieu et du coup, je lui remets tout par amour. Mon amour, à ce moment-là, commence. C'est la part. Je peux faire des actes d'amour autrement, hein. J'aurais pu vous enseigner des actes d'amour autrement. Je le ferai avec l'esprit d'obéissance. Ne vous inquiétez pas. Mais là, c'est l'acte d'amour par excellence qui ouvre mon cœur et fait en même temps exploser l'orgueil. C'est le seul moyen. C'est pour ça qu'on fait des actes d'excellence avant de faire des actes de charité. Vous ne pouvez pas faire un acte de charité si vous n'avez pas fait commencer dans l'acte d'espérance. Impossible. Donc n'essayez pas de vivre l'esprit d'obéissance si vous ne vivez pas d'abord l'esprit de pauvreté, l'esprit de virginité. Impossible. C'est pour ça qu'il y a certains qui ne peuvent pas rentrer dans l'esprit d'obéissance, notamment s'engager, parce qu'ils s'accrochent à leur froid. Bon. Pas des adorateurs. Quoi d'adorateur? Bon. Alors. Donc, on avait vu avec vous les petits trucs pour bien cibler, pas perdre son temps, bien, bon, dans nos rapports fraternels, qu'est-ce qu'on cible bien pour que l'espérance commence à partir. Dans le climat intérieur personnel, comment on cible pour que notre espérance s'approfondisse. Dans notre horizon, comment est-ce qu'on cible pour que notre tripauvreté, notre espérance s'élargisse, s'approfondisse. D'accord ? Alors, on l'avait vu. Comment est-ce que dans la manière de prier ensemble, on cible pour faire que l'espérance s'approfondisse. Et donc voilà, maintenant, nous sommes à rencontre. Nous avons vu même comment dans nos lectures, je vais choisir tel ou tel type de lecture, lesquelles, pour nourrir hein, en moi, pour que le mental ne soit pas un obstacle, justement, la vertu, théologale d'espérance. Donc on l'avait vu, c'est très bien. Quels sont les péchés qu'il faut combattre? On l'avait vu, cela, la luxure, l'athésie, la présomption. C'est les trois péchés qu'il faut combattre. Donc on l'avait vu, hein? Est-ce qu'on l'avait vu On avait vu ça? Bon, donc vous avez vu, fuir les péchés contraires, la luxure, la saisie, la présomption. Pourquoi est-ce qu'il faut fuir la luxure par rapport à l'esprit de pauvreté? On pourrait dire la luxure, mais non. La luxure, il faut fuir la luxure pour l'esprit de virginité. Eh ben non. Ah oui, oui. C'est pas la luxure, non. La luxure, c'est pas la luxure, c'est pas par rapport à l'esprit de virginité. Très curieux aussi. Par rapport à l'esprit de virginité, c'est la tempérance. Vous voyez? La gourmandise par rapport à l'esprit de virginité. Bon, en tout cas, la luxure. Pourquoi la luxure? Parce que dans la luxure, je vis les dimensions, les finalités naturelles de mon corps dans sa différenciation sexuelle, dans sa sexualité différenciée. Dans la luxure, je la vis dans un mouvement d'inversion. C'est ça la luxure. La luxure, de lutter contre la luxure ne veut pas dire renoncer à l'épanouissement de la dimension de différenciation sexuelle de mon corps. Au contraire. Mais, consiste à vivre pleinement dans sa finalité la plus radicale, dans un épanouissement le plus intense possible, de cette dimension, la sexualité différenciée en mon propre corps. Donc, renoncer précisément à cette activité, c'est également quelque chose qui relève de la luxure. Parce que ça prouve que j'en ai peur, d'une certaine manière, et ça prouve donc que dans mon cœur, j'ai une relation avec mon corps qui relève de ce vice. Et ce vice se guérit précisément par la vertu contraire. Il ne s'agit pas, si vous voulez, de dire « Ah, voilà, pour éviter la luxure, je mets de côté. » Non, non, il faut en vivre dans un sens différent de la luxure, et puis c'est tout. Donc il faut arriver à comprendre cela. Je reconnais que là, il faudrait rentrer dans beaucoup de développement. Beaucoup de développement. Mais il faut prendre très très attention que l'abstinence sexuelle, puisque la luxure relève de la sexualité, hein, l'abstinence de notre renoncer, j'allais dire, à la vie sexuelle dans toutes ses dimensions, c'est une faute grave. Attention, je m'empresse immédiatement de dire que la dimension sexuelle, Saint-Thérèse d'Avila le dit explicitement par exemple, est pleinement vécue dans une âme qui vit l'esprit de virginité et de pauvreté. Pleinement assumée en discussion. Pleinement assumée. Bon, vous voyez, il n'y a pas ce mépris du corps. Et Jésus, comment pouvons-nous dire que Jésus a méprisé cet aspect de son incarnation? Jésus n'a pas méprisé. Pourtant, c'est vrai, il a vécu dans la chasteté. On est tout à fait d'accord. Mais sa sexualité a été pleinement assumée et donc pleinement épanouie. Pourtant, il n'a eu aucune activité sexuelle. Je pense que je ne vous l'apprends pas. n'en déplaise, je ne sais pas comment elle s'appelle, c'est sûr qu'il a pleinement assumé ça, c'est un homme complet et qui a épanoui, j'allais dire, toutes les dimensions de son incarnation. L'Immaculée aussi, bien entendu. Puisque quand je prépare les jours de mariage, je pars de là pour expliquer ce qu'on vit et comment on vit sa sexualité dans le sacrement de mariage. C'est à partir de là qu'on comprend comment on vit le sacrement de mariage dans l'union conjugale. Les tentations dans l'ordre, pour la femme, c'est pareil. Vous avez le même processus analogiquement, selon une même. Bon, peu importe, j'ai pas le temps, mais sachez simplement que dès que nous avons une tentation dans ce domaine, si tentation est déjà, si nous sommes déjà blessés à ce niveau-là, alors à ce moment-là, profitez-en vite pour faire un acte d'adoration. Et même si vous êtes marié, bah vous êtes en présence, j'allais dire, du corps de votre conjointe, et bien écoutez, profitez-en pour faire un acte d'adoration, ça réajuste votre sexualité dans sa nature immédiatement. Parce qu'on fait l'acte d'adoration par le contact du corps. C'est extraordinaire. Bon, en tout cas, il faut lutter contre la luxure. La tédie, c'est quoi la tédie? Pardon, A-C-E-D-I-E. A-C-E-D-I-E. La tédie, c'est. Ça rejoint un petit peu ce que je vous avais dit sur le découragement. C'est une espèce de vice, ça. Extrêmement grave, qu'en théologie morale on considère comme une gravité très grande, vous voyez, la luxure, j'allais dire, ça peut être une faiblesse. C'est grave, bien sûr, hein, mais. Parce que la tédie, c'est gravissime, parce que ça attaque, c'est une perversion de l'âme. Et cette perversion de l'âme, c'est quelqu'un qui, par exemple, va se donner entièrement à des activités religieuses, à des activités de prière, à des activités catholiques, à des activités, ce que vous voulez, à la prière, et tout ça. Il va faire tout, il va faire tout ce qui est possible, tout ce qui permet de se donner généreusement. Il va y croire. Il va dire, bon, là, je vais faire confiance, et puis. Etc. Et puis au bout de 2 ans, 3 ans par exemple, il va vraiment faire le forcing là-dessus, vraiment il va tout donner à Jésus, ok? Et puis au bout d'un certain temps, précisément parce que ce n'est pas un adorateur, il va apparaître dans son vécu un découragement. Et petit à petit, ce découragement, au lieu de laisser place précisément à l'adoration, il va continuer à essayer d'être fidèle, de persévérer, comme on dit. Mais comme c'est en dehors de l'amour de Dieu, c'est une espèce d'obstination par rapport à un choix que moi, j'ai décidé de faire, et donc moi, je resterai fidèle, et donc moi, je persévérerai, et donc c'est coupé, en fait, du vrai moi-je, parce que moi-je, c'est le 6-6-6-5 qui sont moi. C'est moi-je replié sur moi-même, c'est pas la personne. La personne dépasse. Ce que les bouddhistes disent en disant qu'il faut aller en deçà de l'ego pour commencer à devenir un être humain et atteindre précisément cette lumière qui active le diaphane intérieur et qui me joint à l'être. C'est ce qu'ils disent. Moi je le dis aussi, sauf que j'ai un petit problème par rapport à leur formulation, mais grosso modo on est à peu près d'accord là-dessus. C'est que si c'est moi-je, au bout d'un certain temps, le 6-6-6, c'est-à-dire de vécu, de générosité extraordinaire, je finis par avoir du dégoût. Quand on arrive à être fatigué, ça on peut le comprendre, nous tous sommes un peu fatigués, mais quand ça arrive à un point où les choses divine nous dégoûte, on persévère quand même. Ça, c'est la saisie. Parce que ça prouve que vraiment, c'est nous tous. C'est très intéressant. C'est la saisie, c'est justement Paul l'ermite, Antoine le moine, Macaire le grand et tous les pères du désert. Il dit tous. Le père du désert, la droite. Hein, je te rends, je te t'amènerai au désert. Et je te parlerai seul. Livre d'Osée, la lecture d'hier, chapitre 2, verset 10. Elle a mangé trop de croissants. Eh bien, c'est dans le désert, c'est le père du désert qui disait que le péché numéro 1, c'est la saisie. Vous n'avez jamais entendu?
Non, non,
on connaît, mais ce n'est pas
le
nom.
Ah, c'est. Eh bien, le péché numéro 1, c'est la saisie. Or, c'est le premier qui rentre, j'allais dire, dans la dimension intérieure de la vie chrétienne dans l'histoire de l'Église. Donc, vous voyez bien, c'est quand même très important de comprendre ce que c'est que la saisie. La saisie, c'est un état dans lequel on est, qui finit, qui est un peu structuré. On le voit, par exemple, on voit Saint Jean, il prend, mange ce livre, et sera doux à sa bouche, mais amer dans son crâne. Bon, eh bien, là, il y a une espèce d'écho de cela. Dans la saisie, effectivement, je prends à pleine main, j'allais dire, la religion et tout ça, toutes les activités spirituelles, généreuses et tout ça. Et finalement, j'ai une espèce d'amertume, mais pas, c'est pas une amertume, quand je ne l'ai pas fait dans l'adoration, c'est pas une amertume, parce que l'amertume en question dans l'Apocalypse, il s'agit de l'esprit de science, hein. Vous voyez, bienheureux les affligés seront consolés, mais si je ne vis pas l'esprit de pauvreté, ça tombe en ascèse, si je dis. Et donc, finit par avoir un espèce de dégoût profond pour toutes ces activités divines, surnaturelles, etc. Ça, vous voyez, c'est vraiment pour nous très précieux de savoir ça, parce qu'on est tous atteints par ça, aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, le Saint-Père a bien expliqué à l'Église de Jésus qu'il ne fallait pas s'affoler, que si on était dans ce genre de choses, c'est normal, puisque on est dans la lutte finale, et dans la lutte finale, vous le savez, les puissances universelles du monde et des ténèbres ont pour effet, et ils n'ont pas d'autre effet, ont pour effet d'essayer de nous empêcher d'adorer. C'est pourquoi le plus grand moyen de sortir de cette espèce de chose, c'est d'adorer. C'est pour ça qu'il a dit donc aux jeunes, vous y étiez. Hein, il a dit plus tard, il a dit à un mois, je tiens à ce que toute l'Église sache que la clé de libération de tout christianisme, nous la donnons, quand il dit nous la donnons, c'est-à-dire l'Esprit Saint, et puis toute la succession apostolique qui se cristallise à travers ce qu'il veut dire, nous voulons la donner aux rencontres internationales des jeunes. Et donc, il a dit, vous savez bien, à la rencontre internationale des jeunes la dernière, où je dis, mais ayez la foi, et essayez de te faire de ceci, et de faire cela. Non, il a dit une seule chose, il a dit, je suis. 33 fois. Si vous ne comprenez pas ce que c'est que je suis, à partir de vous, votre existence l'être, qui dépend de la créateur de Dieu, si vous ne comprenez pas ça, vous n'êtes pas capable de rentrer métaphysiquement, concrètement, dans un jugement d'existence par rapport à votre « je suis, j'existe ». Et si vous n'êtes pas capable de mettre votre « je suis » dans le « je suis de Dieu », acte d'adoration, vous ne passerez pas le seuil du troisième millénaire avec la foi. Et vous ne passerez pas le seuil du troisième millénaire avec la dignité de l'homme, c'est-à-dire qu'on n'est même pas homme. Il a dit explicitement. Et il a répété 33 fois. On aurait pu dire, je suis, pourquoi est-ce qu'il est bâti, moi, que je suis. Pff, quand même, il s'est chargé de lancer d'amener la bonne nouvelle de l'Évangile, de te raconter un petit peu quelque chose pour elle. Non. Laissez tomber tout, je suis l'adoration. concrètement, juste un philosophe, il sait comment il faut jugement d'existence, vérité de sagesse. Neuf, ça veut dire tout ce qui correspond à votre vécu, vos a priori, votre manière de voir Dieu, vos opinions sur Dieu, vos opinions sur la vie chrétienne, laissez tomber. Voyez, vous existez, je suis, j'existe. Et mettez votre je suis dans le je suis de Dieu, dans l'adoration. Et voilà. Tout le reste, laissez tomber, sinon vous ne vous perdrez pas, vous perdrez, vous ne serez plus chrétien. Au seuil du troisième millénaire. Il n'a pas dit, il a dit ça. Des témoins directs. Hein. Il l'a dit ou il ne l'a pas dit? Il dit oui, dit non. Je ne prononce pas. Bon, enfin, relisez le texte et vous verrez. Bon, sauf que ça a été tapé. Hein.
C'est quelle manifestation?
Chesokova 81. Bon, moi, je le dis évidemment avec ma manière, de manière bon, ok. Non, mais c'est traduit, c'est quand même ça qu'il a dit. Il n'a pas dit je suis, ça peut être un peu, je suis. Non, je sais que vous êtes revenu ici en disant ah, oh, on n'avait pas réalisé du tout. Même parce que c'est la fête, il y a des feux partout. Je suis, le pape est heureux de voir ces jeunes rassemblés autour de la Vierge Marie. Je suis. Les jeunes, ils étaient là, ils disent, qu'est-ce que ça veut dire, pas trop, quoi. Donc quand ils sont revenus ici, ils ont relu le texte en expliquant, en voyant ce qu'il avait dit explicitement, littéralement, ils se disent, ah, bah ça, on n'avait pas compris ça. Ben oui, on n'avait pas compris ça, mais n'empêche que c'est ça qu'il a dit. C'est la cassette de septembre dernier, on a commenté ça pendant 3 heures. On a passé 3 heures à commenter pour montrer comment c'est ce « je suis » du pape qui va faire sauter le New Age. Donc, muet, sauter toute la tentation d'une spiritualité à partir des énergies dans l'Église catholique. Et dans le monde. Parce que la spiritualité des énergies, c'est pour faire sauter le point de vue humain dans l'homme, et c'est pour faire sauter dans l'Église chrétienne, dans la vie chrétienne des chrétiens, pour faire sauter dans l'adoration. Et à partir du moment où ça fait sauter l'adoration, c'est génial, parce que du coup, il n'y a plus de possibilité d'avoir la foi, enfin, en acte. L'espérance en acte, la charité en acte, et donc c'est la mort de l'Église. C'est très intelligent, hein, de la part de l'Antichrist, d'organiser cela. Et donc le pape, il dit, ciblez là-dessus, laissez tomber tout le reste, vous perdez votre temps. Si vous ne ciblez pas là-dessus. Vous voyez? Bon, et enfin, donc la saisie et la présomption.
Et
ah oui, ça c'est sûr, mais Teresa fonctionne uniquement par l'adoration. Ah oui, non, mais même l'adoration, même elle apprend même à ses sœurs, je peux vous dire, que justement on a été stupéfaits dans les frères de Saint-Jean, puisque les frères de Saint-Jean, ça va bien, ils ciblent son corps métaphysique. Hein. C'est là où on cible. Hein. On sait que c'est là. Pour nous, la petite pierre de David qui fera sauter Goliath, c'est l'adoration à condition de passer par un jugement d'existence métaphysique. On sait que c'est ça. Et quand on a rencontré les sœurs de Mère Teresa dans tel ou tel prieuré, nous on sait donc grâce à Aristote, etc., et bien Mère Teresa leur enseigne ça et elle tient à les porter à ça. On a été surpris. Et elle aussi, elle se dit, ah, oh, vous aussi. Et le Saint-Père a dit à un père franciscain qu'il avait visité vers les années 82-83, il a dit, ma plus grande gloire de pape, ma plus grande dignité, ma plus grande joie, et peut-être aussi ma plus grande gloire, c'est d'avoir été le pape de la fondation des petites filles de la charité de Mère Teresa et des petits frères de Saint-Jean.
C'est
beau.
Oui.
Voilà. Et donc, il actionne sur je suis face au jeune. C'est normal. D'accord? Bon, alors, vous comprenez bien que la présomption, l'orgueil et la vanité sautent aussi avec l'adoration. C'est facile à comprendre. La présomption. La présomption, c'est quoi? C'est le fait de regarder les choses sous leur dimension, sous leur aspect secondaire. C'est ça une présomption.
Dès que vous sentiez, dès que vous êtes un petit peu vaniteux, dès que vous commencez à surprendre en vous un jugement, en disant, vraiment lui, c'est le dernier des investis. Eh bien, attention, ça veut dire que dès que vous voyez quelqu'un qui critique, ça arrive. Vous voyez par exemple, je voyais par exemple une petite jeune fille de 14 ans et demi, 15 ans. Bon, je ne dirai pas son prénom parce que certains d'entre vous la connaissent. Bon, la très surprenant, baissée, léger. Chic, genre. Alors, bon.
Bon, chic, bon.
Oui. Vraiment, vraiment bien. Mais, elle critique tout le temps. Ah, elle est très bien, elle me perd du. Il n'y a rien à dire. C'est pas compliqué, il n'y a rien à dire. Rien. C'est merveilleux. Mais, elle dit, vous voyez, présomption, vanité. Très net, le primat de la négation. C'est-à-dire que, elle regarde, ça veut dire qu'elle ne regarde que des choses secondaires. Elle est très vertueuse. Les vertus, c'est quelque chose de secondaire. C'est très important, les vertus. Mais c'est secondaire. On demande les vertus de Marie, il les faut, mais c'est secondaire. Ce qui compte, c'est la substance. Vous voyez, on voit ça, que la substance, dans les catégories d'Aristote, par exemple, on voit que vous avez la substance et les accidents. C'est ce qui est substantiel, ce qui est accidentel. Et le premier de tous les accidents dans une vie humaine, le premier de tous les accidents, la substance en nous, c'est quoi? C'est la personne. C'est substantiel en nous, c'est la personne. C'est substantiel et actuel à la fois, c'est la personne. C'est une synthèse pour la substance et la métaphysique, la personne. Et ce qui est secondaire, c'est tout le reste. Et le premier de tous les accidents, donc le plus digne de tous, c'est les vertus, les qualités intérieures de l'âme, habitus, de lumière, d'unification intérieure. Ça, c'est très grand, mais c'est un accident. Ça veut dire que c'est secondaire. Quelqu'un qui est dans la présomption, c'est le signe qu'il ne vit pas les choses, il ne vient pas se nicher, il est en zone. Ceux qui ont fait, ils sont en zone 3. C'est grand, c'est beau, c'est bien la zone 3, c'est pas la zone 4. Alors quand on est en zone 3, et si on n'est que dans la zone 3, c'est donc qu'on est dans le primat de la négation, puisqu'on n'est pas dans le seul lieu de la positivité métaphysique, qui est la personne. Et donc c'est le primat de la négation. Et donc instinctivement, face à n'importe quel stimuli de l'extérieur, c'est le primat de la négation qui va dominer, et c'est pourquoi on est critique. Dans la maturation des enfants, oui, je trouve aussi, c'est d'accord. Il y a Piaget qui note qu'effectivement, il y a la période du non chez l'enfant de 3 ans. D'accord, après la période du oui, on est tout à fait d'accord. Hein. Ça, c'est un autre problème, hein. C'est dans la maturation psychologique. Moi, ici, je parle ici du point de vue humain, spirituel, d'une personne humaine. Donc, et c'est pour ça que ça donne Hegel. Et Hegel, c'est le primat de la négation. Dans un monde qui est imbibé de néo-hegelianisme, il est bien évident que c'est normal, qui est le primat de la négation. Ah, mais enfin, il faut bien quand même la vérifier, il faut quand même. Vous voyez, la critique, c'est merveilleux parce que ça permet de se mettre un petit peu au-dessus pour voir ce que c'est. Ah ah, est-ce que tu es sûr que tu vas bien voir ce que c'est comme ça? Tu vas avoir rien du tout. Hein. Tu vas avoir l'impression d'être au-dessus. Alors que pour voir quelque chose, il faut être intelligent et donc il faut intus legere. Il faut dire la chose de l'intérieur de cette chose. Si tu te mets au-dessus, c'est le primat de la négation. La présomption. Hegel, c'est ça. Et donc, dès que tu juges, dès que tu poses une critique d'une personne, attention, si vous critiquez le péché en général, vous pouvez y aller. Mais si vous critiquez, si
vous prêtez plus ma navigation face. Dès que vous surprenez ça, attention, attention. Ça veut dire que spirituellement parlant, vous n'existez pas. C'est-à-dire que spirituellement parlant, au niveau de la personne, vous ne savez pas. Il y a des gens qui n'ont de leur vie jamais fait une seule fois dans leur vie une expérience personnelle. Et là, c'est vrai. Une expérience personnelle au sens où le Saint-Père l'entend quand il dit je suis. C'est très important de comprendre ça parce que vous voyez bien que si vous vivez ici dans l'aspect substantiel de votre vie et actuel de votre vie, en même temps dans la personne, à ce moment-là, quand vous regardez celui qui est proche de vous, c'est là que vous l'atteignez et vous pénétrez intus legere. N'est-ce pas? Vous lisez ce même mystère si différent qui est en lui. Et du coup, il y a une possibilité de contemplation entre nous. Mais si vous êtes à partir du vécu, rendez compte, à partir de vos vertus. Les pharisiens croyaient que Jésus les aimait, que Dieu les aimait à cause de leurs vertus. Les pharisiens pensaient vraiment. Ils pensaient qu'ils étaient en bonne odeur, comme dit le texte grec, à Dieu, à cause de leurs vertus. Ah, ils en étaient convaincus. Alors Jésus disait, mais non, c'est je suis. Avant qu'Abraham, je suis la résurrection. Alors les pharisiens étaient là, et ils plissaient les narines. Ils pensaient qu'ils étaient en bonne odeur aux yeux de Dieu. C'est extraordinaire, cette espèce de dans la révélation. Dès que vous avez une rencontre entre deux sens externes, dites-vous bien qu'il y a quelque chose de très fort. Ils pensaient qu'ils étaient en bonne odeur, vous voyez ça, aux yeux de Dieu, à cause de leur vertu. Voilà ce qu'ils pensaient. Et puis quand Jésus parle, il arrive. Je sais pas, je trouve ça fabuleux là. Ça fait Jésus. Et Jésus leur dit, et alors Jésus leur dit, vous êtes en puanteur aux yeux de Dieu. Mais il a attendu qu'il fasse Narius. Hein. En face de Jésus. On voit ça, c'est pas ça. Sans faire de caricature du judaïsme, hein. C'est pas du tout ça que je veux dire. Parce que nous aussi, je veux dire, le Gaulois, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai une descendance juive et gauloise, alors. Synthèse, hein? Ah, l'arabe aussi, oui. Oui. Vous trahissez les secrets, hein, vous, hein? C'est accidentel, ça. Et Jésus dit, vous êtes en puanteur. C'est extraordinaire, ça. C'est pas les vertus qui fait qu'on est en bonne odeur aux yeux de Dieu. C'est le fait qu'on est dans la main de Dieu. Et on est dans la main de Dieu du fait qu'on existe. Et qu'on veut bien mettre dans cette dépendance toute simple, tout notre amour, toute notre âme, toute notre vie, toute notre personne. Voilà. Voilà. Ça, oui. Simplement. À ce moment-là, voilà. Mais les vertus, qu'on soit dans une chasteté parfaite, qu'on soit dans une humilité merveilleuse, qui en fait c'est une fausse humilité, qu'on soit, etc. Ça, c'est on est en puanteur. En puanteur. Parce que c'est le primat de la négation. Et donc c'est luciférien. L'antichrist dans l'Apocalypse, parce que le livre de l'esprit de pauvreté, c'est l'Apocalypse. Le livre, c'est l'Apocalypse. C'est le livre de l'espérance. C'est vraiment le livre de l'espérance. Qui va nous révéler ce que c'est l'esprit de pauvreté dans le vécu de l'Immaculé. C'est ça, vous avez la clé de lecture de l'Apocalypse. C'est comment l'Immaculé a vécu l'esprit de pauvreté. Voilà, vous avez la clé de lecture de l'Apocalypse. C'est une révélation. Ce qui s'est passé dans la nuptialité immaculée de la Vierge, dans son cœur de femme humaine, lorsqu'elle vit l'esprit pauvreté. Ça ne peut pas se lire autrement. Ben, ça peut se lire autrement, mais à ce moment-là, on essaie de trouver des substrats historiques, exégétiques, etc.,
qui est très intéressant aussi, philologique, etc., très intéressant, mais ce n'est pas ça la clé de compréhension, hein, d'unification du texte, mais une espèce de révélation de l'esprit de pauvreté. C'est pour ça qu'on dit que c'est le livre de l'espérance. Apocalypse, dévoilement de ce qui est ultime et plus parfait. Apocalypse, c'est un dévoilement, révélation, dévoilement de ce qui est plus secret, plus intime, dans ce qui a été plus parfait dans la création du monde. Et nous le savons, c'est l'Immaculée Conception dans son dévoilement ultime qui est la chose la plus parfaite de la création. Parce que Jésus, lui, engendré, non pas créé. C'est dans le credo, on va dire, il me semble. L'Apocalypse, c'est ça. Donc, pour ceux qui sont intéressés, nous avons traité la théologie de l'Apocalypse pendant un an. Et il va y avoir des cassettes là-dessus, 12 ou 13 cassettes, je crois. Alors, où est-ce qu'on en était? Donc, vous voyez, pour la présomption, tout ça pour bousiller la présomption. Je ne sais pas pourquoi je parlais de l'Apocalypse, ça ne fait rien. Bon.
C'est le livre de l'espérance,
oui, non, mais j'étais parti d'autre chose. Donc, maintenant, l'humilité, puisque on a presque une demi-heure pour faire justement le but de. Parce que tout ça, c'était l'introduction. Donc, maintenant, on rentre dans le vif du sujet d'aujourd'hui. C'est un petit rappel. Petit rappel rapide. Bon. Oui, parce que si tu veux, là, on a passé quand même plus de 20 heures déjà dans tout ça. Donc, c'est un petit rappel en une petite trois quarts d'heure de ce qu'on a fait dans une vingtaine d'heures ensemble. Bon. Alors, l'humilité. Donc, je vous lis le texte et puis après, on commence. L'humilité. Comprendre. Donc, vous voyez, il s'agit donc. Le dernier aspect de la spiritualité de l'espérance, premier aspect, il faut résister aux idéologies contraires. Deuxième aspect, il faut pratiquer la joyeuse pauvreté dans une vie de prière. Et le troisième aspect, troisième chapitre de la spiritualité, s'enraciner dans la vertu d'humilité et dans l'espérance. Et dans ce troisième chapitre de la spiritualité, eh bien, il faut premièrement lire, avoir des lectures dans le sens donc, de l'esprit de pauvreté, fuir les péchés contraires, et troisièmement, s'enraciner dans la vertu d'humilité. Et donc comprendre, essayer de voir où nous en sommes dans la vertu d'humilité, pour qu'elle s'enracine encore plus. Si nous ne sommes qu'au troisième degré d'humilité, essayer de s'enraciner au moins dans la quatrième, pousser ses racines un peu plus profondément dans l'humilité. Il y a 12 degrés d'humilité. C'est très classique, ça. Saint-Benoît, hein, les 12 degrés d'humilité. C'est universel dans l'Église. On n'a pas le droit de refuser les 12 degrés d'humilité de Saint-Benoît. On n'a pas le droit, si on est catholique. C'est universel. En disant, moi, je ne suis pas d'accord avec les 12 degrés d'humilité de Saint-Benoît. On n'a pas le droit. On peut renoncer. En tout cas, on a supposé même qu'on ait un tout petit droit. On peut renoncer à ce droit-là. Saint-Benoît est plus grand que moi. Ah non, moi je suis beaucoup plus grand que Saint-Benoît. Saint-Benoît, c'est rien du tout à côté de ce que j'ai découvert. Ah, ça c'est présomptueux, ça. Ah, supposez même que vous ayez un droit, il faut renoncer à ce droit. Et rentrer dans ce que dit Saint-Benoît. Parce que toute l'Église de Jésus dit Saint-Benoît, c'est vraiment le docteur de l'humilité. Le docteur. Ah, c'est quand même génial de ce qu'il y a Saint-Benoît. C'est vrai, comme Saint-Benoît est un type concret. C'est pas désagréable, l'humilité avec Saint-Benoît, du tout. Alors, l'humilité. Comprendre que l'amour surnaturel seul permet l'humilité en unissant surabondance et pauvreté. Ah, mais ça, je crois que je me semblais que je vous en avais déjà parlé. Donc, vous voyez, vous me faites répéter. Oui, c'est le petit. Surabondance et pauvreté.
Oui,
voilà.
Oui, c'était pas dans le.
C'est pas ici.
Il faut le remettre.
Bon, alors, c'est dans. Vous connaissez sans doute la naissance, d'après la mythologie grecque, de l'amour. L'amour, héros, hein, en grec. L'éros, c'est pas du tout l'amour érotique de notre vision aujourd'hui. Hein. L'éros, c'est l'amour dans sa beauté. C'est la beauté de l'amour. C'est l'amour quand il atteint, j'allais dire, l'aspect divin qui est en lui, et du coup, il éclate de beauté, d'harmonie. C'est l'amour dans son harmonie. Parce que c'est l'harmonie qui fait la beauté. Un visage est beau, c'est harmonieux. Donc, éros, c'est ça. C'est l'amour dans sa beauté. Dans sa beauté intérieure, notamment. Comment est né l'amour? Tous les hommes se sont posés la question, d'où vient l'amour? Notre amour, l'amour qui est en nous, l'amour dont nous avons soif. D'où ça vient? Tous les hommes se sont posés cette question. Comme les Grecs, c'était la civilisation certainement la plus intelligente que l'humanité ait connue. C'est évident, c'est point de vue spéculatif. C'est absolument certain que c'est les Grecs qui ont dépassé toutes les autres civilisations.
En prix actuel.
Oh oui, ça bien sûr, c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, et bien quand on est obligé, quand on essaye de se former à une intelligence bien équitée, etc., on est obligé de reprendre à Aristote. C'est Aristote, tout le monde est d'accord, je veux dire.
Socrate et Platon aussi.
Mais Socrate c'est pour éveiller, et Aristote c'est pour former. Vous voyez? C'est vrai, c'est assez impressionnant ça. En tout cas, voilà Platon qui explique. Comment Socrate enseigne la naissance de l'amour. Et Socrate l'enseigne parce qu'il s'enracine dans la mythologie grecque, laquelle est l'aspect religieux du grec. Il semble bien qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est que l'amour, et on ne peut pas savoir d'où vient l'amour, et on ne peut pas. Alors du coup, comme on ne peut pas, eh bien on invente un mythe. Mais ce mythe n'est pas simplement une invention. C'est un enracinement dans le réel. C'est ça qu'il faut faire très attention dans un mythe. C'est qu'il y a, c'est très fort un mythe. Bon, enfin, on n'a pas le temps de faire beaucoup de philosophie ici, c'est pas le lieu en plus. Mais en tout cas, on voit ce banquet, vous direz dans Platon le banquet de Platon, qu'on va lui une fois dans sa vie, et on voit en effet un dieu extraordinaire, c'est un banquet où il y a tous les dieux qui sont là, Zeus, etc., enfin, tous les dieux. Et il y en a un qui est assez extraordinaire, qui est jeune, qui est beau, qui réussit en tout, qui est harmonieux, qui est surabondant, surabondant, surabondant. Vraiment, il y a la fierté de la vie, vraiment. Et là, il est parti du banquet. Et c'est la fête dans ce banquet, on s'enlève. Une fête extraordinaire des dieux. Et puis il y a une autre, parmi la multitude des dieux, il y en a à peu près peut-être une centaine dans l'ensemble, qui sont en train de participer au banquet, tu vois. Et il y a une autre petite divinité qui est là. Elle s'appelle pauvreté. Le premier s'appelle surabondance en fait. Et le deuxième, la deuxième s'appelle pauvreté. C'est une déesse qui s'appelle pauvreté. Et elle n'ose, elle est au banquet, mais elle participe au banquet uniquement comme ça, par l'oreille, parce qu'elle n'ose pas rentrer, elle est trop pauvre. Elle est là, à la porte, effacée complètement, pauvre. On pourrait dire mendiant, si on veut, mais pas exactement. Misérable. C'est vraiment. Pauvreté absolue. C'est pas la misère, mais cette pauvreté absolue. C'est la déesse. L'autre, surabondance, commence à sortir de cette dehors, porte, il bute. Il est dit, il bute sur pauvreté, et de leur œuvre commune naît Eros. La naissance d'Eros. Eros est conçu dans la rencontre nuptiale entre surabondance et pauvreté. C'est vraiment extraordinaire. C'est vrai, il ne faut pas dire que le mythe est stupide. C'est très extraordinaire. Donc, voyez bien que nous pouvons transposer cela, qui est une découverte de sagesse humaine. Mais n'oublions pas, nous, que nous savons que l'homme est créé à l'image de Dieu dans son affectivité d'amour. Et donc, nous savons que cette découverte de la sagesse humaine se prolonge en nous dans l'esprit de pauvreté. C'est pourquoi je vous ai mis ici que l'amour surnaturel seul permet l'humilité en unissant surabondant. Je suis la résurrection et pauvreté, je suis. Surabondant, je suis la résurrection, esprit de source. Et pauvreté, je suis esprit de frère. C'est les deux affirmations de Jésus. Quand Jésus vit l'esprit de crainte, il dit « Je suis ». Et quand il vit de l'esprit de science dans sa chair humaine, il dit « Je suis la résurrection ». C'est ce qu'il dit à Marc. À la résurrection de la mort. Et devant les Juifs, il dit avant qu'Abraham. Cette unité, cette rencontre dans le cœur de Jésus entre ce que signifie son vécu surnaturel et divin quand il dit je suis dans son cœur humain, dans son corps humain, et de ce qu'il vit surnaturellement dans son cœur, son chair et sa chair humaine lorsqu'il dit je suis la résurrection, c'est cette rencontre de ces deux ondes de choc d'amour qui provoque précisément qui rend possible en nous l'esprit de pauvreté. Et donc il faut comprendre que l'amour surnaturel seul permet l'humilité chrétienne, laquelle est cette porte ouverte de cette conjonction des deux dons dans un seul vécu qu'on appelle l'esprit de pauvreté. Alors là, nous pouvons faire un acte d'espérance. Comme un truc. Et là, c'est l'humilité. Vous voyez, c'est très fort, l'humilité. Même si vous n'en avez pas conscience, parfait, ça ne fait rien. Ah, dis mais moi, comme je n'ai jamais réalisé cela, donc je n'avais fait un acte d'espérance. Si vous êtes rentré dans une humilité chrétienne et que vous avez demandé vraiment à Jésus à partir d'être là en vous, de vivre ce qui vit à travers vous, et à partir de là, vous faites un acte d'espérance, ça suffit. D'accord ? Donc, c'est cette humilité qui nous permet de nous regarder nous-mêmes comme Jésus et Marie nous regardent. Avec nos opacités, nos limites, notre néant. Donc, le premier degré d'humilité. L'humilité, c'est quoi ? Elle commence par la crainte de Dieu. Et fait alors de nous une terre divine où Dieu peut intervenir. Voilà le premier degré d'humilité. Le premier degré d'humilité, c'est de rentrer dans l'acte d'adoration surnaturel. L'acte d'adoration dont je vous ai parlé tout à l'heure est un acte d'adoration naturel. Comment est-ce que je passe de l'acte d'adoration naturel à l'acte d'adoration surnaturel ? Je vous signale que le dernier degré d'humilité, le septième, correspondra à l'acte d'adoration en esprit et en vérité. Quand je fais un acte d'adoration surnaturel, ce n'est pas encore l'adoration en esprit et en vérité. Ce que dit Jésus à la Samaritaine, ce que le Père veut, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. C'est le seul endroit où Jésus parle de la volonté du Père. Le seul commandement du Père, vie éternelle, adoration d'esprit en vérité. C'est le dernier degré de vérité. Mais ici, il faut passer par ce premier degré, qui est l'adoration surnaturelle. Comment est-ce qu'on fait ? J'espère que vous, puisque vous le faites tous les jours, il n'y a pas de problème. Il faut que je vous le rappelle, ou bien je vous le rappelle ? Je vous le rappelle. Donc je vais essayer, je vais vous le rappeler. On fera les six autres degrés d'humilité demain. Alors, premier, comment est-ce qu'on fait un acte d'adoration surnaturel ? Vous voyez, l'humilité commence par la crainte de Dieu et fait alors de nous une terre divine où Dieu est libre enfin d'interpeller. Alors, je vais recommencer l'acte d'adoration naturel. qui est absolument nécessaire en préalable. C'est même pas le degré d'humilité numéro 1, c'est le degré d'humilité numéro 0, ou moins 1, préliminaire. C'est la préparation à l'utilisation. Parce que dès que vous êtes à l'adoration, vous êtes vous-même, en vérité. Et donc, c'est pas encore l'humilité. L'humilité, c'est donner une vitalité intérieure à votre personne, donner une qualité d'humilité. C'est quelque chose de plus que l'humilité, que d'être vous-même. Acte d'adoration, j'existe, je me touche, je vois que j'existe. Ah, mais là, oui, c'est certain que j'existe. Je peux quand même pas nier, mais elle aussi. Hein. Ah, ouais, toi aussi. J'existe. Sans te toucher, hein. Sans te toucher. N'essayez pas de fermer les yeux en disant j'existe. Ah non, ça c'est votre vie que vous touchez. Dès que vous fermez les yeux, vous êtes à l'intérieur, c'est votre vécu, c'est votre intimité intérieure. Le plus loin que vous puissiez aller dans votre intimité intérieure, c'est là, hein, c'est la vie. Qui actue votre diaphane intérieur, cette lumière très pure, qui actue cette source de lumière vivante qui est en vous, qui actue votre diaphane intérieur. Ok ? Ça, c'est à vous. Vous en faites ce que vous voulez. Vous allez au Carmel, vous allez au boucher, vous allez dans le laboratoire, tout ce que vous voulez. Vous allez dans l'acide ou bien alors dans la crasse, de la sainteté, du Mont Carmel, comme vous voulez, au choix. Vous êtes libre. Et bon Dieu, vous restez de ce côté-là. C'est vous qui avez votre vie en main. Vous l'aurez été comme vous voulez. Ça, c'est très important de voir où est votre vie, de pouvoir habiter dans le lieu où votre âme est là. Vous maîtrisez votre âme, vous l'orientez partout où vous voulez. Vous pouvez la diminuer, tout ce que vous voulez. Tandis que, le fait que j'existe, alors là, j'existe. Ça, c'est pas à vous. C'est vous, mais c'est pas à vous. C'est-à-dire, ça dépend pas de vous. Mais c'est pas parce que j'existe, ça dépend pas de moi. C'est vrai. En ce moment, ça dépend en fait de l'acte créateur de Dieu. En ce moment. C'était pas il y a 42 ans. Hein. C'est maintenant, actuellement, qu'il y a l'acte créateur de Dieu. Acte créateur de Dieu. Je dépends actuellement, mon être est dans la main de Dieu. Donc, et du coup, ma vie qui dépend de moi, et bien par reconnaissance, gratitude, par amour, je remets en Dieu sur la même dépendance. Ça va, ça y est, j'ai fait mon acte d'adoration naturelle, je suis moi-même. Soi-même en pleine vérité, voyez, parce que toutes les dimensions sont actuées, contemplatives notamment, j'allais dire de créature par rapport au créateur, d'adoration, métaphysique, affective, tout est actué ici. Et si je l'ai fait avec une très grande force, point de vue artistique est actué aussi. Et si je l'ai fait avec une très grande lucidité par rapport à tous ceux qui sont autour de moi, la dimension, j'allais dire, universelle, de responsabilité, et puis ma dimension de corps est présente aussi. Toutes mes sept dimensions sont présentes dans l'unité, dans ma personne. Je suis une personne humaine. Dès que j'ai. Ça va ? Ah ! Maintenant, à partir de là, puisque j'ai tout remis à l'intérieur de mon Créateur, et que mon Créateur et moi, nous sommes là, je réalise une chose, et par la foi, qui est tout à fait autre chose, là, par la foi, je regarde Jésus. Et Jésus, mais c'est lui qui est mon Créateur et qui fait que j'existe. Et en plus, toute mon âme, il la reprend dans son cœur ouvert, rédempteur. Il la reprend radicalement dans la grâce, donc dans une vie. C'est pas un être, la grâce. C'est une vie surnaturelle. Dès que je vois que Jésus, je vois que je dépends de lui. Complètement, c'est lui qui fait que j'existe. Hein. Je découvre que c'est Jésus qui fait que j'existe, qui est mon créateur. Et à travers Jésus, je vois que c'est lui mon créateur et aussi mon recréateur. Puisqu'il reprend toute ma personne, toute mon âme, jusqu'à la racine. Et la reprend comme l'eau imbibe l'éponge. Donc la grâce surnaturelle sortie de Jésus, crucifié et glorifié, reprend toute ma vie intérieure. Et mon âme, jusque dans la lumière et de gloire de la vision béatifique, je suis entièrement recréé. Et de ce point de vue-là, je dépends totalement de lui, du point de vue de l'être, mais aussi du point de vue de la vie, cette fois-ci. Ah, cette fois-ci, ma vie également dépend de lui. Et donc, puisqu'il recrée tout moi-même, et aussi ma vie par la grâce. Et donc, je dépends actuellement aussi par la vie intérieure. pas seulement du point de vue de l'être, de lui. J'en prends conscience. Je dépends totalement de Jésus. Et du coup, j'en prends conscience, j'accepte cela. Et par gratitude, et par amour, du coup, il faut absolument que je lui donne quelque chose. Et puisque, effectivement, je suis devenu une terre divine, une âme divinisée par la grâce sanctifiante, puisque je suis tout à fait en Jésus, c'est la foi qui justifie. Hein. La foi justifie, ça veut dire la foi vous met dans la grâce sanctifiante. C'est ça. Hein. La foi justifie. C'est pas les sacrements. Les sacrements, ils justifient aussi, si vous voulez. Mais c'est la foi qui justifie. L'Épître aux Romains. En tout cas, Jésus, là, vous dépendez totalement de lui. Et comme vous êtes une terre divine, eh bien, vous avez ce pouvoir divin de reprendre dans toute la création tout ce qui n'est pas pris par la divinité. Vous avez ce pouvoir de reprendre dans toute la création, tout le cosmos, toute l'humanité, tout ce qui n'est pas divin, tout ce qui n'est pas divinité, tous les hommes qui ne vivent pas la grâce sanctifiante. Vous avez ce pouvoir, et effectivement, vous reprenez à pleinement tout ce cosmos, tous les hommes qui ne vivent pas, eux, la grâce, comme vous. Et nous avons été choisis pour ça. Qu'est-ce que vous donnez les pauvres gens? On va faire comme les macrures et dire, bon, ben, si, je ne vais pas dire non, mais c'est très bien, et je le fais, et je prends à pleine main, intentionnellement, toute la création du monde, toute l'humanité, tous ceux qui ne vivent pas cette grâce, je les rassemble et je les donne à Jésus et à Dieu. Vous voyez, c'est le même mouvement que l'acte d'adoration surnaturelle, mais à un plan surnaturel. Est-ce que vous comprenez? J'espère que vous comprenez, hein. Quand même. Vous voyez, dans ma manière de le faire, donc, voilà, j'ai donné toute ma vie à mon Créateur, je suis en Dieu. Et puis, mais prenez, bon, je vais reprendre d'une autre manière, si vous voulez, parce que je vois qu'il y a vous coincez un petit peu. Vous êtes face, par exemple, à un tabernacle, à Jésus Eucharistie, dans l'Eucharistie. Prenez Jésus dans l'Eucharistie, allez dans n'importe quelle église, si vous voulez, prenez même un crucifix, mettez-vous devant un crucifix. Je sais pas, moi, mettez-vous devant une icône. Mais c'est beaucoup mieux si vous avez l'occasion de voir Jésus-Eucharistie, parce que là, il est personnellement, substantiellement et concrètement présent. Mais très bien, mettez-vous assis, si vous pouvez aussi le faire, mettez-vous face au caractère du baptême qui est en vous et qui assure une présence réelle. Une présence, tous les sacrements ont une présence réelle. C'est pas la même présence que la présence substantielle de l'Eucharistie, mais c'est à chaque fois une présence réelle. C'est pour ça que dire que l'Eucharistie c'est une présence réelle, ça ne suffit pas. Les gens qui disent que cette présence réelle, ça suffit largement, ça ne suffit pas du tout. Si vous dites que l'Eucharistie s'arrête à la présence réelle, vous faites sauter l'Eucharistie. C'est pas compliqué. C'est pas seulement la présence réelle. C'est la présence substantielle. Transsubstantiation. Le caractère du baptême, le mariage aussi a une présence réelle, mais pas substantielle. L'Eucharistie, c'est plus grand du point de vue de la présence que le mariage, c'est bien évident. Mais en tout cas, à travers le caractère du baptême, vous avez une présence réelle, puisque vous êtes, à travers le caractère du baptême qui est imprimé dans votre âme, vous êtes incorporé dans la mort physique et la résurrection physique du Christ. Donc vous avez une présence de Jésus. Qui est là. Bon, en tout cas, prenez n'importe quelle source de présence de Jésus, n'importe laquelle, un crucifix, un sacramental, l'Eucharistie, n'importe quel sacrement, peu importe, mettez-vous face à Jésus. Et voyez que Jésus, vous réalisez d'un seul coup, dans votre lucidité intérieure et spirituelle, et que c'est lui qui fait que vous existez. Et oui! Je dépends en ce moment de la Créateur de Dieu, mais c'est lui. C'est à cette fois-ci, j'ai un lieu. C'est ça qui est extraordinaire avec Jésus. J'ai un lieu. L'Eucharistie, elle est là, elle n'est pas là. Quand Jésus est l'Eucharistie, c'est vrai. J'ai un lieu. Et c'est lui qui fait que j'existe. Donc je dépends totalement, substantiellement. Mon être dépend actuellement de Jésus qui est là. Et du coup, j'y donne toute ma vie. Et en même temps, je sais qu'il me recrée dans mon âme pour la vie éternelle. Mais je ne peux pas lui donner toute ma vie, puisque ma vie dépend déjà totalement de lui dès que je fais un acte de foi. Alors comment je vais faire un acte d'adoration? Un acte d'adoration, c'est l'acte de foi qui se prolonge dans un acte d'adoration, selon ma petite frère. Ça se prolonge comment? Eh bien, c'est-à-dire, puisque je suis entièrement lui, et que lui divinise toutes mes activités personnelles, c'est le Christ qui vit en moi, ce n'est plus moi seul qui vit. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il faut absolument que je fasse quelque chose. Eh bien, il faut que je prenne tout ce que Jésus a mis entre mes mains, tout ce que Dieu a mis entre mes mains. Qu'est-ce qu'il a mis entre mes mains? Il a mis entre mes mains tout, mes frères. Je ne vis pas encore cette grâce. Tout le cosmos, toutes les plantes, tous les petits animaux, tous les petits oiseaux, tous, je les ramène et je donne tout ça à Dieu pour les plonger dans le foyer ardent de cette grâce sanctifiante, de cette lumière surnaturelle qui permet de pénétrer en bras à tout dans la glorification. J'en suis responsable de ça. Par amour, allez, Seigneur, donne tout. Parce que dès que tu es chrétien, tu es le roi de la création. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce. Quand le Concile Vatican II dit sacerdoce royal, il dit explicitement cela. Et il ne dit pas exactement là, mais on pourrait regarder sur le major pour montrer que ce n'est pas un truc inventé par un petit gris. Hein. Ça a toujours été dit, Saint Benoît, Concile Vatican II. C'est pas une invention, c'est pas facultatif, c'est pas une spiritualité en disant moi c'est pas ma spiritualité. Si c'est pas ta spiritualité, tu es en dehors. Voilà comment je fais un acte d'adoration surnaturel. À ce moment-là, toute la création pénètre, tout le vécu de la création, qui n'est pas encore totalement pris par la grâce sanctifiante, par justement cette brûlure ardente, cette lumière surnaturelle, cette vie surabondante, ce foyer ardent de la grâce, de la vie surnaturelle et divine en Dieu, celle qui actue tout le diaphane de la très sainte Trinité, et bien je la plonge dans ce foyer ardent. Vous voyez, les trois enfants à la fournaise de Babylone. C'est merveilleux ça. Bon, donc c'est comme ça que vous rentrez dans le premier degré d'humilité. L'humilité commence par la crainte de Dieu. Alors à ce moment-là, quand vous êtes là, vous craignez, vous avez peur que quoi que ce soit, pas seulement vous, mais dans l'univers, ne pénètre pas dans cette harmonique, ne soit pas en phase avec cette grâce, cette unité, cette harmonie divine qui est dans Jésus-Christ. Dans l'effacement mutuel d'un amour éternel. Eh bien, c'est pas encore l'acte d'adoration en esprit en vérité, ça, parce que vous pouvez dire, est-ce que je peux aller plus loin dans l'adoration? Eh bien, non, c'est important de rester plus loin. Et si vous n'en êtes que là, il faut plonger vos racines un tout petit peu plus profondément. Là. Ça sera pas en avion les éprouvettes.